Le balado de développement professionnel vous propose un survol rapide des éléments essentiels des projets de développement proposés par votre association professionnelle. Ces projets sont pour la plupart financés par le ministère de l'Éducation ou par un organisme paragouvernemental. Vous avez manqué un webinaire? Pas le temps de participer à un réseau d'apprentissage professionnel? Intéressé par un projet particulier, mais vous aimeriez avoir un avant-goût des contenus avant de vous engager dans une démarche plus longue? Le balado vous fournira les bases essentielles dont vous pourriez avoir besoin. Vite fait, bien fait. Voilà la ligne directrice de cette série balado. Bienvenue chez vous.
Bonjour, chers collègues de l'ADFO, et bienvenue au deuxième épisode de la série balado intitulée « Leadership éthique ». Je me nomme Gabriel Drouin, je suis la direction des services consultatifs au Consortium Centre Gilles Léger, et j'ai le plaisir d'être le lead du projet à l'ADFO. Cette série de balados a pour but d'examiner le leadership scolaire sous l'angle de l'identité, de l'équité, de la lutte contre l'oppression, de l'accessibilité, de l'inclusion, ainsi que de la pleine participation des élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée. Dans notre premier épisode l'année dernière, nous avons exploré l'importance de comprendre qui nous sommes en tant qu'individus et comment nos préjugés peuvent influencer la façon que nous dirigeons. Aujourd'hui, nous parlons de différents aspects de la recherche sur le plan de l'inclusion des élèves. Nos collègues à la direction d'école de langue française en Ontario sont avec nous pour partager leurs perspectives et expériences en lien avec la création de milieux d'apprentissage inclusifs, là où chaque élève se sent entendu, compris et inclus. Je présente mes collègues, Mme Carole Paquette, direction de l'école secondaire Hanmer, au Conseil scolaire du Grand Nord, anciennement à la direction des services à l'élève de ce même conseil. Nous avons également Mme Nicole Letarte-Elbin, direction de l'école élémentaire catholique Saint-Philippe au Conseil scolaire catholique Providence, et M. Thomas Craig, direction adjointe de l'école élémentaire Franco-Niagara. Nous accueillons également Mme Nadia Rousseau, professeure titulaire et chercheure à l'Université du Québec à Trois-Rivières et experte en inclusion scolaire. Mme Rousseau fera écho à certains des propos partagés par les directions en faisant des liens avec la recherche. Bonjour à vous quatre et un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans un premier temps, j'aimerais entendre mes collègues quant au rôle de la direction dans l'établissement d'un climat et d'une vision inclusive. Donc, on va commencer avec Mme Carole Paquette. Que faites-vous pour connaître vos élèves et leurs familles de manière à ce qu'ils se sentent vraiment écoutés et compris?
Merci, Gabriel, pour l'accueil. Pour nous, moi, chez nous, c'est l'accueil est important. C'est important que je crée des liens avec les parents qui se sentent écoutés. Donc, j'ai une approche de porte ouverte. Donc, ma porte est toujours ouverte pour les élèves, pour les parents qui sont invités à venir discuter avec moi sans rendez-vous au besoin. Je me rends disponible autant que possible. J'aime être à l'écoute. Ça veut dire écouter pour comprendre, sans jugement, pas juste pour écouter et répondre. J'aime aussi valider mes émotions puis les propos qui sont présentés. Parce que pour moi, je crois fermement que leur perception de la situation, c'est vraiment leur réalité. J'essaie de trouver des solutions ensemble avec eux. Puis, jouer mon rôle comme direction d'école, c'est vraiment du service à la clientèle. On est là pour les élèves et leurs familles, pour s'assurer qu'ils aient une expérience positive avec le service qu'on leur offre, qui est l'éducation de leur enfant.
Merveilleux. Et M. Thomas, est-ce que tu pourrais ajouter?
Oui, merci également pour l'accueil. Alors, je pense qu'en tant que direction, notre impact est clé pour créer un climat, en fait, une vision inclusive dans nos milieux de travail. On donne le ton pour l'école. Et je pense que ça nous revient de créer un environnement où chaque élève et chaque famille, en fait, se sent inclus et accueillis, mais aussi écoutés à l'école. Alors, quelques stratégies que nous, on utilise dès le début de l'année, c'est important que les canaux de communication entre l'école et les familles soient ouverts, accessibles, surtout accessibles et variés. Surtout, quand on parle d'inclusivité, on pense notamment à nos nouveaux arrivants qui arrivent et qui n'ont peut-être pas les mêmes habitudes au niveau des voies de communication. Donc, le courriel est peut-être moins utilisé. les plateformes comme School Day peut-être ou pour les sorties éducatives. Donc ça, c'est un apprentissage à faire avec eux. Donc je pense que la direction d'école se doit d'appuyer les familles dans ces démarches. Je pense aussi, on parle de nouveaux arrivants, des programmes d'accueil, des programmes d'intégration. Chaque nouvelle famille doit être accueillie à l'école.
Madame Nadia, est-ce que vous pourriez commenter?
Je trouve ça tellement intéressant ce qui vient d'être partagé, notamment. Là, je vais peut-être revenir sur deux points. Le premier, c'est lorsque Thomas dit c'est un peu la direction qui donne le ton pour l'école. Puis effectivement, c'est un résultat récurrent de la recherche, ça, que quand on veut aller vers des pratiques plus inclusives, quand on est préoccupé par l'inclusion, bien, effectivement, la direction d'école a un rôle très important à jouer, notamment pour donner le ton, puis agir aussi comme modèle auprès de l'équipe école. Fait que je trouvais ça vraiment le fun que ça soit évoqué. Puis ensuite, autant Thomas que Carole, vous avez abordé toute la dimension de la collaboration avec la famille. Carole, tu l'as abordé comme accueil, lien avec le parent, puis écouter pour comprendre sans jugement. Thomas, tu as fait référence à l'accessibilité puis à la variété dans les modes de communication. Puis ces exemples-là, ça nous renvoie dans une des grandes dimensions d'action dans les pratiques plus inclusives, c'est s'assurer d'avoir des mécanismes d'accueil, de suivi, d'accompagnement qui répondent à une diversité de réalités, donc à une diversité de familles, plus ou moins familières ou familières avec le milieu scolaire, avec ce qui s'y vit. Avec la culture de l'école, diversité de familles avec des enfants qui ont peut-être des réalités scolaires différentes en termes de facilité ou autre. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de vous entendre puis de voir cette préoccupation-là pour l'accueil et le suivi. Fait que c'est pas juste au moment de l'accueil, c'est à l'accueil, mais après, c'est le suivi et l'accompagnement tout au long de la scolarisation.
Merveilleux. Excellent. Donc, oui, donc on parle d'accueil et ça, c'est un beau pont vraiment vers le prochain thème qui est l'accès. C'est un thème qui est vraiment ressorti de la recherche qui démontre qu'il y a toujours des barrières systémiques qui mènent souvent à ça. C'est un manque d'accès. Et ces barrières vont aussi contribuer à un isolement social et à l'intimidation des élèves qui ont des besoins particuliers, ainsi qu'à des attentes scolaires peu élevées envers les élèves. Les barrières contribuent aussi à marginaliser les élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée dans notre système scolaire sur les plans pédagogiques, physiques et aussi sociaux. Et aussi que des efforts systémiques sont encore nécessaires pour réduire ces barrières. Commencer à discuter de comment on peut aborder nos propres et ceux de notre personnel et de notre communauté à travers de notre leadership. Commencez avec vous, Mme Nicole.
Merci. Premièrement, comme leader en éducation, il faut qu'on se regarde dans le miroir. Il faut qu'on réfléchisse à nos propres biais parce qu'on en a tous. Et si on ne les reconnaît pas chez nous-mêmes, on ne peut pas les surmonter. Il faut tenter de les reconnaître et réfléchir sur l'impact qui ont ces biais sur mon leadership et sur mes décisions. Je dois être consciente des stéréotypes et des impressions des autres au sujet des élèves. Quand les élèves se voient différents, quand ils voient les autres élèves de différents, il faut qu'on adresse ça puis qu'on puisse réfléchir à nos perceptions pour pouvoir les adresser chez les jeunes et chez les parents et chez le personnel. Il faut amener aussi le personnel à faire de même. Il faut aussi créer un climat de transparence et d'ouverture où l'équipe se sent à l'aise de discuter des biais. Il faut aussi donner la formation sur la diversité et l'inclusion chez notre personnel et chez nos élèves. La différenciation pédagogique a un impact tellement important dans nos classes, ainsi que la conception universelle de l'apprentissage. Fait que ce qui est bon pour un doit être bon pour tous, et tout le monde pourrait accepter ça, et doit apprendre à accepter ça aussi.
Comment est-ce que cela peut influencer nos perceptions du sujet des capacités et aussi des parcours. Ça va commencer avec Mme Carole.
Oui, les perceptions sont très importantes. Je sais qu'il y a aussi une importance qu'on donne aux données pour nous guider dans nos actions puis nos prochaines étapes, d'où la création possible d'un profil de l'élève. Il faut faire attention cependant à l'importance qu'on donne à ce profil parce qu'on veut éviter aussi que ce profil crée des jugements ou des biais, comme disait Nicole. Il ne faut pas oublier que chaque élève est un individu avec certaines capacités et que tous les élèves peuvent réussir, peu importe le bagage personnel ou la situation économique. La capacité diffère d'une personne à l'autre, puis la définition de réussite va aussi varier selon le besoin puis les habiletés des élèves. Donc, chaque élève va cheminer à travers son parcours, à son rythme, puis il faut célébrer les succès en cours de route, petit ou grand. Plus l'élève va vieillir et évoluer dans son parcours, plus il va pouvoir développer ses capacités en lien avec ses forces puis ses intérêts.
Excellent. Et M. Thomas, tu peux ajouter à ça?
Oui, non, je pense en fait qu'il faut partir du profil comme constat. C'est un point de départ, pas une finalité. Okay? Donc, c'est vraiment le profil un constat de départ. Et de là, il faut reconnaître qu'il existe une diversité de profils chez nos apprenants, au sein de nos écoles, et que chacun d'entre eux a ses propres défis, ses propres atouts, etc. Puis ces profils peuvent, comme on l'a dit là, peuvent inclure des différences socio-économiques, des différences culturelles, linguistiques, et ainsi que des besoins spécifiques, par exemple en matière d'éducation spécialisée. Donc, je pense que c'est fondamental, en fait, que nos perceptions sont influencées par des stéréotypes et des préjugés, et ceux-ci sont conscients ou inconscients, indépendamment. Donc, qu'est-ce que ça nécessite? Ben, une approche inclusive et empathique de notre personnel, je pense, qui reconnaît et valorise justement la diversité des expériences et des différentes perspectives. Là, Nicole, tantôt, elle parlait de la formation. La formation ici, je pense, elle est vraiment clé. À Viamont, par exemple, il y a quelques années, on a vraiment mis l'emphase pour tout le personnel du conseil sur la formation au niveau des biais inconscients, formation aussi des micro-agressions, dont qui arrive assez régulièrement dans nos salles de classe.
Encore une fois, on vient de mettre le doigt sur quelque chose de fondamental. Hein, quand on veut vraiment là, développer une communauté éducative inclusive et équitable, effectivement, on n'a pas le choix de faire notre propre introspection puis d'être honnête avec soi-même sur notre façon d'agir ou de réagir à l'égard de différentes personnes, différents contextes, différents marqueurs de diversité. Puis c'est un point de départ pour s'améliorer. C'est un point de départ pour réaliser que ben, on a des belles forces avec dans différents contextes, mais qu'on a encore du travail à faire sur nous pour être plus efficace dans d'autres contextes de formation. On parlait d'impression versus de fait, puis ça, pour moi, ça fait toute la nuance entre des connaissances et des croyances. Hein? Une croyance, c'est ce que je crois être vrai. Puis je peux croire que c'est vrai qu'un milieu plus défavorisé va nuire à l'apprentissage. Mais c'est une croyance, c'est pas un fait. Fait que moi, souvent, j'aime encourager les équipes écoles à avoir des réflexions honnêtes envers soi-même, mais à partir de contre-exemples, de montrer des exemples de personnes devenues adultes qui ont un rôle important à jouer dans la société, malgré leur historique, hein, où ils sont des enfants issus de ce contexte-là, bien ça nous oblige à réfléchir, fait que pas juste au plan théorique et philosophique, mais avec des vrais exemples, avec des espèces de vignettes pour nous brasser puis nous aider un peu plus loin. Alors, c'est vraiment un élément fondamental de l'inclusion, cette espèce de travail sur soi, collectif. Hein? On a mis tantôt pas juste le personnel enseignant, mais même les élèves vont à faire ce travail-là, parce que là aussi, il y a des jugements à défaire, il y a des croyances à défaire pour mieux agir et vivre ensemble. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que dans la notion d'entraide, qui est très présente en inclusion, bien, il y a nécessairement une notion de confiance. Puis pour avoir confiance à l'autre, il faut défaire ces préjugés-là. Puis d'en être conscient, bien, c'est un bon point de départ.
Absolument. On parle de confiance et maintenant, ça nous mène au prochain thème qui est les relations. Donc, justement, établir des relations selon la recherche, c'est absolument prioritaire pour les, entre les familles et les écoles, et surtout les familles d'élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée. C'est essentiel pour une expérience éducative et sociale significative. C'est pas toujours facile d'entretenir des relations qui ont un impact positif sur le bien-être et la réussite scolaire des élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée. Question pour Thomas. Tu as vécu comment tes relations avec les élèves, les familles et les communautés?
Je pense qu'en fait, c'est un trio magique. Hein. C'est la recette vers le succès, c'est l'application de ces trois ingrédients. Donc, la famille, les élèves et la communauté. Et que si on voit ça en silo, qu'on ne peut pas en fait atteindre nos objectifs de réussite scolaire, peu importe cette définition de la réussite qui est différente pour chaque enfant. Il y a beaucoup de recherches qui montrent d'ailleurs que les écarts d'apprentissage peuvent être attribuables à des facteurs extrascolaires, okay? Donc des choses dont l'école ne peut pas contrôler. Par exemple, caractéristiques familiales, etc., ce n'est pas des choses que l'école peut contrôler. Ce que ça démontre, c'est l'importance en fait d'avoir cette collaboration entre l'école, la famille et la communauté dans une espèce d'approche que je vais appeler écosystémique. Là. C'est son propre petit écosystème. D'ailleurs, on sait que la théorie sur laquelle le milieu socio-économique a un impact sur les résultats scolaires existe depuis longtemps. Hein. La littérature est très abondante à ce sujet. Et c'est là que j'aimerais vraiment mettre l'emphase et apporter votre attention sur cette théorie parce qu'il y a une erreur qui est Je pense qu'il y a une erreur qui est faite trop souvent, c'est d'utiliser ce constat comme une façon de justifier les mauvais résultats. Okay? Mon école ne réussit pas parce que mes élèves viennent de milieux défavorisés. Donc, encore une fois, on utilise ça comme un prétexte, une excuse pour justifier une finalité. Moi, je pense qu'en fait, on prend cette théorie et on en fait un point de départ. Donc, c'est un constat, point de départ. Et la question qu'une direction d'école doit se poser, c'est qu'est-ce que moi je fais? Partant de ce point de départ, qu'est-ce que moi je fais pour avoir des meilleurs résultats à mon école? De se dire, moi je connais mes élèves, je connais ma famille, je connais leur réalité. On part de données probantes, je connais leur réalité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux contrôler?
C'est excellent de garder ça. J'aime beaucoup le trio magique parce que effectivement, les trois composantes sont très importantes. On revient maintenant aux élèves en particulier. J'aimerais entendre Mme Carole sur comment tu peux construire des liens avec tes élèves de manière intentionnelle. Comment toi, tu fais ça dans ta vie, pas que direction d'école?
Mais moi, je priorise les élèves, puis je suis toujours disponible pour eux. Donc, si pour une raison, je ne suis pas disponible pour eux autres, le moment qu'ils viennent me voir, je leur explique la raison pour laquelle je ne suis pas disponible, puis je leur dis que j'irai les retrouver aussitôt que j'ai fini de faire ce que j'ai à l'horaire. Je suis toujours à l'écoute, puis je m'assure que l'élève sache qu'il a toute mon attention. Donc, quand l'élève entre dans mon bureau, j'arrête ce que je fais, je regarde l'élève et je l'écoute. Je m'assure aussi qu'il se sent comme je crois tout ce qu'il dit, au point même où le personnel m'accuse des fois de me faire enjôler par les élèves, mais ceci me permet d'avoir la confiance de l'élève. Puis cette année, je suis nouvellement au poste de direction dans une école secondaire, puis j'ai réussi à créer ce genre de lien avec les élèves. Les élèves sont très honnêtes avec moi. S'il y a quelque chose qui se passe, je leur pose la question, ils sont responsables, ils vont me dire si oui ou non, ils ont été responsables ou non d'une certaine situation, puis ils n'ont pas peur de venir me donner de l'information par rapport à des situations potentiellement explosives pour qu'on puisse assurer la sécurité et un bon climat scolaire. Donc, je pense que cette intention-là de vraiment être à l'écoute de l'élève, je pense que c'est bon pour nous. Puis le fait que les élèves, par la suite, se sentent en sécurité, sont plus aptes aussi à apprendre. Donc, le bon climat, puis aussi des meilleurs résultats scolaires pourraient suivre avec ces liens, ce genre de liens-là qui sont créés.
Effectivement, il y a des résultats qui montrent qu'il y a certains facteurs qui contribuent ou qui nuisent à l'expérience scolaire. Enfin, je vais aller plus loin que la réussite scolaire, là, dans l'expérience scolaire, sur lesquels l'école a peu de contrôle Et pour moi, ça, c'est un beau levier pour se dire, OK, travaillons ce sur quoi nous, nous avons du contrôle. Fait que c'est un beau levier pour cibler nos actions. Puis dans ces actions-là, un des leviers, c'est effectivement de donner la voix aux élèves. C'est quelque chose sur lequel je reviens souvent, fait que je me permets de le faire encore. Il y a comme 5 grands niveaux de participation dans la voix que l'on donne aux élèves, dans toute cette idée de faire en sorte que l'expérience scolaire soit la plus riche et la plus engageante possible. Il y a un premier niveau où on va écouter l'élève, mais on l'écoute, mais ça ne veut pas dire qu'on va utiliser ce qui a été dit ou qu'on va le réinvestir. On l'a écouté. Mais clairement, quand on écoute un élève, ça fait quand même du bien pour l'élève d'avoir pu s'exprimer, mais il n'y a pas nécessairement de réinvestissement. Il y a un deuxième niveau où non seulement on va écouter l'élève, mais on va lui donner des moyens pour s'exprimer. Donc, un élève plus jeune va pouvoir s'exprimer à travers le dessin, le théâtre. Alors, on ne sera pas uniquement exemple dans le questionnaire parce qu'on veut la vie de nos élèves. On va utiliser plusieurs modalités pour s'assurer que la diversité d'élèves qu'on a devant nous peuvent s'exprimer. Et là, on veut vraiment connaître l'opinion pour pouvoir s'en inspirer. Mais avec ce souci-là d'accessibilité à l'ensemble de nos élèves, avec leurs défis, leurs limites, leurs caractéristiques. C'est intéressant, on progresse. Le troisième niveau de participation des élèves, c'est lorsque ces opinions-là sont vraiment prises en compte et que les élèves le sachent. Alors, lorsqu'ils savent que leurs opinions sont prises en compte, là, on vient de gagner la confiance. C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. On vient de gagner la confiance. Puis, il y a beaucoup de travaux qui montrent que plus l'élève a des expériences scolaires négatives, plus c'est difficile de regagner cette confiance-là. Et plus on doit faire la démonstration que leur opinion, elle est vraiment prise en compte. Alors, je trouvais ça important là, d'insister sur ce troisième niveau-là. Le quatrième niveau, non seulement on va tenir explicitement compte des opinions et des propositions évoquées par l'élève, mais l'élève va participer pleinement au processus décisionnel le concernant. Mais la voix de l'élève peut aller dans la planification de l'enseignement, rendre un curriculum plus sensible, plus accessible à une diversité de culture, par exemple. La voix des élèves peut soutenir la direction d'école dans de la résolution de problèmes qui est vécu à l'école, dans la priorisation de certains problèmes vécus à l'école. Le dernier niveau, le cinquième niveau de participation là, de la voix des élèves, c'est non seulement il y a une participation au processus décisionnel, mais il y a un partage de responsabilité aussi. Je veux que vous sachiez que lorsqu'on est entre le troisième et le quatrième niveau, les bénéfices pour les élèves sont très nombreux. On va parler d'engagement scolaire accru, d'amélioration au niveau des apprentissages. On va parler également du développement d'un esprit critique, hein, parce qu'on s'exprime, on apprend à se connaître, on développe notre communication. On remarque aussi un climat de classe, un climat d'école qui est plus positif entre élèves, entre adultes et enfants, adultes, enfants, famille. Et ultimement, ben, ça les prépare à la vie adulte, ben, à la vie citoyenne, là. Alors, je trouve ça fort intéressant d'entendre le souci et d'être préoccupé par l'élève. Puis moi, je vous dirais, oui, il faut l'écouter, mais il faut aller un peu plus loin que ça puis voir tout ce que ça peut nous amener.
On arrive déjà au dernier thème que nous explorons ensemble aujourd'hui. C'est l'importance du sens d'appartenance à chaque élève, y compris les élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée. On commence avec Mme Carole encore. Mme Carole, comment les attitudes et les croyances des adultes peuvent-elles avoir un impact sur le sentiment d'appartenance des élèves?
Les attitudes et les croyances des adultes ont un gros impact sur le sentiment d'appartenance des élèves. Je dirais même que c'est la perception de l'élève face à l'attitude et les croyances des adultes qui ont le plus grand impact. L'adulte peut être accueillant, inclusif ou se voir comme ça, mais si l'élève le perçoit comme étant mécanique, pas du cœur, il y aura plus de difficultés à connecter avec l'adulte. On entend ensuite des commentaires comme « Monsieur ou Madame ne m'aime pas, pique sur moi, je peux rien faire de bien, il veut pas m'aider, je n'aime pas Monsieur ou Madame, je veux pas être dans sa salle de classe. » Donc, comme j'ai déjà dit, la perception de l'élève, c'est sa réalité. Donc, il est très important de rester neutre, de faire attention à son ton de voix, d'éviter les jugements, peu importe nos croyances, de bien gérer nos émotions et d'être à l'écoute lors de nos interactions avec les élèves pour qu'ils se sentent tous acceptés et qu'ils ont tous une place à l'école.
Tellement ce que tu as maintenant dit deux fois aujourd'hui, la perception et la réalité, vraiment très intéressant. Monsieur Thomas, est-ce que vous pouvez nous partager comment vous abordez le sentiment d'appartenance spécifiquement aux élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée?
À notre école, on a une classe distance, une PPEC, donc un programme de partenariat pour l'éducation avec les établissements communautaires. C'est ce qu'on appelait à l'époque les sections 23. Voilà. Donc, on a ce programme au sein de notre école, ce qui nous rend un petit peu différent parce que dans beaucoup de cas, ces classes sont dans des milieux hors de l'école, donc peut-être un centre communautaire ou une agence communautaire quelconque. Donc, ce genre de classe peut en fait être un petit peu un milieu artificiel. C'est pas la vraie réalité d'une classe dans une école régulière. Donc, on a la chance de l'avoir au sein de l'école et ça nous donne beaucoup de d'avantages. Donc, je vais en nommer ici plusieurs. Donc, la communauté, à la place qu'on a vers eux, ils viennent vers nous. OK? C'est le premier gros avantage, c'est que les services sont offerts à l'école. Ça nous permet d'inclure le fait d'avoir des élèves à l'école, ça nous permet d'inclure nos élèves dans certaines activités systémiques de l'école. Ça peut être des tournois, ça peut être des reconnaissances, des forts, ça peut être même une récréation, ça paraît anodin, mais l'élève qui participe à une récréation avec ses pairs, ben, ça vaut de l'or, ça vaut de l'or, parce que des fois, les élèves ont des difficultés comportementales ici, sont en fait fort exclus du milieu régulier. Donc, les élèves qui nous sont confiés ben, ont la chance de pouvoir vivre un milieu scolaire un peu plus régulier.
Donc, c'est intéressant dans la perspective plus communautaire et pas nécessairement dans la classe régulière, mais c'est important aussi de voir comment on peut s'assurer que les élèves qui n'ont pas nécessairement accès à une classe régulière d'avoir accès quand même à un milieu scolaire. Très intéressant comme initiative. Madame Mathias.
Je vais continuer de faire du pouce avec ce qui a été évoqué. Appartenance, communautaire, attitude, croyance, puis voix des jeunes. Je ramène tout ça ensemble avec ce qui fait que les élèves se sentent bien à l'école. Quand on questionne les jeunes sur ce qui fait que je me sens bien à l'école, puis là, on parle de jeunes qui ont une diversité de portraits, là. Certains qui ont des diagnostics ou pas, facilité d'apprentissage ou pas, classe ordinaire ou pas. Ce qui fait que je suis bien à l'école, puis on va reconnaître là, la place du communautaire, là. C'est d'une part d'avoir des expériences signifiantes à l'école. Puis l'expérience signifiante, ben ça se fait pas juste en classe, ça se fait aussi à l'extérieur des murs de l'école, en lien au cursus scolaire. Donc, des activités parascolaires qui me mettent en contact avec une diversité d'élèves, mais en contact avec ma communauté. Des environnements stimulants à l'extérieur des murs de l'école, hein, quand on s'en va visiter un musée, quand on va voir sur le terrain ce qu'on apprend dans les livres, entre guillemets. Des projets expérientiels, donc les projets de service communautaire, par exemple. Alors, on voit comment pour les élèves, le bien-être à l'école, une des grandes catégories là, de leur réponse, là, c'est oui, il y a l'école, mais tout ce qu'on peut réinvestir à l'extérieur des murs de l'école, alors ce qui a été évoqué par Thomas me faisait penser à ça. Il y a une autre grande catégorie qui est des environnements d'apprentissage flexibles. Puis pourquoi? Parce que plus les environnements d'apprentissage sont flexibles, plus les jeunes nous disent avoir des espaces pour collaborer, co-construire, réfléchir ensemble, puis découvrir des amis, puis des gens avec qui on ne pensait pas qu'on allait bien s'entendre au départ. La troisième grande catégorie, et qui dit, vous pouvez, il y en a juste quatre, la troisième grande catégorie, c'est des relations bienveillantes et positives. Fait que là, on retombe dans toute la question attitudinale, puis dans l'importance des relations entre enfants, avec la famille, entre pères, entre adultes et enfants, elles sont tellement importantes. Puis je dois vous dire que dans cette grande catégorie-là là, de relations, les jeunes nous disent, ben tu sais, qu'on me traite comme un humain, comme un ami. On sait qu'on n'est pas des amis, mais qu'on me traite comme un humain, comme un ami. Sentir que les gens autour de moi sont préoccupés de moi. Pas juste la réussite scolaire, mais de ce qui m'arrive dans ma vie quand moi je suis à l'école. Puis les jeunes, dans leur définition du bien-être à l'école, vont aussi nous parler de leur propre développement personnel. Puis je trouve ça le fun qu'ils l'évoquent. Être bien à l'école, c'est aussi être dans un milieu où on se préoccupe de mon développement personnel, où on se préoccupe de la connaissance que j'ai de moi-même, où on se préoccupe de ma capacité à m'accepter moi-même, mais aussi à accepter puis à aider les autres. Fait que ça aussi, ça nous ramène à toute cette question-là d'inclusion scolaire. Très enrichissant ce que les jeunes peuvent nous dire sur qu'est-ce qui fait qu'on est bien à l'école.
Absolument. Toujours très intéressant d'entendre la voix des élèves comme ça. Donc, on arrive déjà à la conclusion. Je vais vraiment ouvrir ça quand même. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de plus qu'on aimerait discuter, partager avec les collègues en province, donc sur la manière dont on place les élèves au centre de notre planification, les élèves ayant une vision particulière au centre de notre planification? Et si vous pouvez partager aussi l'impact que cela a sur votre leadership scolaire. On va commencer avec Mme Carroll.
Quand nous pensons à nos élèves, ils sont au centre de nos décisions. Nous planifions en fonction de leurs forces et voulons répondre à leurs besoins, pas ceux du personnel. Je crois fermement que c'est la responsabilité du membre du personnel de s'adapter au groupe qui se trouve devant lui ou elle et non l'inverse. Ce n'est pas à l'élève de s'adapter à l'enseignant ou l'enseignante. Au niveau du leadership, ben, ça me rappelle que mon personnel, c'est aussi comme mes élèves. Donc, c'est important que je sois à l'écoute, que je comprenne, puis que je ne juge pas les adultes dans mon rôle de leadership. Donc, il faut que je reconnaisse aussi que certaines décisions qu'on va prendre, le personnel ne sera pas content avec ça aussi. Donc, il faut quand même tenir compte puis être à l'écoute du personnel. Si le personnel et les parents ont la perception que je suis là pour les aider, pour les écouter sans jugement, les relations seront moins difficiles à développer, puis le climat de travail de l'école ne sera pas à risque. Puis comme Thomas a dit, c'est la direction qui met le ton, donc puis c'est la direction qui est aussi le modèle pour sa communauté scolaire.
Parfait. Merci beaucoup, Carole. Je vais passer ça à Mme Nicole.
Excuse-moi, merci. Oui, Carole, tu as entièrement tout dit ce que j'aurais voulu dire, mais je reviens au niveau pas juste de la scolarité de l'enfant, mais aussi du parascolaire, des activités d'école en général. Et j'intègre un petit peu mon leadership là-dedans directement. C'est que maintenant, les profs viennent me voir avec une activité qu'ils veulent proposer à l'école. En gros, ils viennent avec aussi comment tout le monde va pouvoir participer. Certains élèves vont pouvoir faire ceci, il va falloir adapter cela, mais tout le monde va pouvoir participer à la même activité. Et ça vient maintenant de la communauté scolaire, pas juste de moi qui dis, écoute, il va falloir qu'on change quelque chose.
Merveilleux. Ça va. D'accord, M. Thomas.
Ben moi, je vous écoute et puis clairement, ce que j'entends, c'est des panélistes là, donc de mes collègues ici, c'est l'importance, nous, qu'on a d'exercer un leadership éthique. Puis c'est un petit peu la trame, je pense, du balado, d'exercer comment les directions d'Ontario peuvent exercer un leadership éthique. Là, on parle des enfants avec des besoins particuliers aujourd'hui là. Et j'ai lu un ouvrage qui est fort intéressant. Qui s'appelle « L'anatomie du leadership éthique » de Mme Langlois. Et moi, je l'ai regroupé en quatre catégories par rapport à un petit peu ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et on a déjà parlé, mais mes collègues l'ont déjà dit, c'est vraiment la prise de décision centrée sur l'élève. Je pense que du moment que nous, on fait ça, que les directions d'école sont guidées par cette éthique, si vous voulez, et de responsabilité presque, du bien-être des élèves et de mettre ça au cœur de nos décisions, de nos décisions, On veille à ce que nos décisions, en fait, contribuent à la croissance et au développement, au succès, à la réussite de nos élèves, OK? Tout ça, évidemment, dans l'optique d'avoir un milieu inclusif, sentiment d'appartenance, on en a parlé. Donc, tout ça, ça rentre vraiment là-dedans. Je ne vais pas me répéter, mais c'est ça vraiment. On parle de leadership éthique. On met l'enfant au centre de nos décisions. Puis, je pense que si on part de là, on est sur la bonne voie.
Absolument. Je suis entièrement d'accord. Madame Nadia, on termine avec vous. Est-ce que vous avez entendu?
J'allais dire, si on place l'élève au centre, ben on a l'obligation de lui donner la voix. mais je trouve ça vraiment fort intéressant, tout ce qui a été partagé par les trois directions. Puis je trouve que c'est inspirant aussi de voir là, la préoccupation que vous avez pour l'élève et sa famille. Avec moi, en guise de conclusion, j'ajouterais juste que ça n'a pas été clairement évoqué, mais on sentait qu'il y avait une préoccupation, oui, pour les savoirs, hein, la réussite. Au-delà de ça, il y avait vraiment une préoccupation qui était là pour les savoir-être de l'élève, pour les savoir-faire de l'élève, pour les savoir-devenir de l'élève. Alors, une perspective centrée sur l'élève qui va au-delà du curriculum, c'est magnifique.
Merci beaucoup, Mme Nadia. Puis vraiment, je termine avec aussi l'idée que tout ce qui a été partagé aujourd'hui témoigne vraiment de ce qui a déjà été confirmé par la recherche. Et c'est les parents eux-mêmes qui disent aussi qu'ils ont beaucoup de très bonnes expériences avec les directions d'école. On voit que les directions se soucient profondément de l'appartenance des élèves et de leur inclusion à l'école. Donc, merci à vous trois pour votre leadership. Merci beaucoup, Mme Souk, pour votre expertise. Et ce partage aujourd'hui m'a été bien apprécié. J'ai beaucoup apprécié la discussion et la réflexion. Puis, c'est certain que ce balado va servir à nos collègues partout en province qui sont toutes et tous en réflexion au niveau de la création d'un milieu d'apprentissage inclusif pour chaque élève, y compris nos élèves qui ont des besoins particuliers en éducation spécialisée.